Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Par les temps qui courent, qui écoute les artistes pendant 1 heure tous les soirs. On est ravis pour cette dernière émission de la semaine de recevoir la chorégraphe Maggie Marin.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Ce n'est pas facile de vivre ensemble, pas facile du tout, mais on continue d'essayer. Déjà essayé, déjà échoué, peu importe, essaie encore, échoue mieux, écrit Beckett dans Cap au pire. Ces jours-ci, vous recréez Maybe, Maggie Marin, une pièce importante née entre autres de votre lecture des textes de Beckett. Une pièce où il n'est pas facile pour un groupe de ne pas oublier une vieille au chapeau, de ne pas moquer celle qui se risque à chanter, de ne pas absorber la singularité de chacun, de partager son bout de gâteau et de ne pas espionner les amoureux. Pas facile, car le groupe est une drôle de machine qui exclut, conditionne, mais il rassemble aussi. Les interprètes, recouverts d'argile blanche, saluaient hier soir sans quitter leur état de corps, si bien que nous, public, nous nous retrouvions à applaudir chaudement celles et ceux que la société maltraite ou repousse par ailleurs, le fou, l'exilé, le vieux et le lent. Maybe est en tournée, elle est donc à Paris, au Théâtre de la Ville Espace Cardin, ceci jusqu'au 12 mars. Bonsoir à vous, Maggie Marin.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, on est absolument ravis de vous recevoir. Lorsque vous créez cette pièce, votre fils est dans votre ventre, alors il a une sorte de relation un peu particulière avec Maybe et il en fait le point de départ d'un film qui s'appelle L'urgence d'agir. Il sera en salle le 6 mars et il sera aussi projeté à l'Espace Cardin à Paris. Comme j'ai dit que c'était en tournée, je dis que vous serez donc en Espagne le 15 mars, 21 mars au CDN d'Angers, 28 mars au Théâtre Romain Rolland dans le cadre de la Biennale de danse du Val-de-Marne à Villejuif et le 17 avril au Théâtre de Saint-Maur à Saint-Maur-des-Fossés. Jusqu'au 17 avril. On commence par parler de Beckett.
Enfin, moi, lorsqu'on me parle de Beckett, immédiatement, ce que je vois en premier, c'est son visage. Je ne sais pas si tout le monde connaît, enfin, a déjà vu la photo de Beckett, mais enfin, cette espèce de visage dur, d'aigle, avec des rides énormes. Finalement, un visage qui est très beau. Alors, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Cette espèce de, enfin, d'ambiguïté, on la retrouve dans toutes ses pièces. Pour ce qui est de fin de partie, enfin, moi, le problème que je me pose, bon, Beckett, on sait qu'il fait partie d'un certain nombre de d'auteurs, de pièces, qui sont les témoins finalement bon, de la finitude d'un monde. Le monde est en train de finir et il bute finalement contre quelque chose. Ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? Est-ce que le monde du théâtre de Beckett, c'est un monde bon, qui donc finit? Mais d'où vient cette espèce de pourriture? Est-ce que c'est purement extérieur? Par exemple, dans la pièce ici, dans la fin de partie, bon, les quatre personnages sont enfermés dans une pièce, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il y a vraiment une espèce de fatalité, on a l'impression qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. D'ailleurs, je crois que c'est un petit peu le même climat qu'il y avait en attendant Godot. Les personnages n'ont vraiment plus aucun pouvoir. Ils n'ont plus aucun pouvoir ni sur eux-mêmes, ni sur leurs actes, ni sur le monde en train de finir. Alors moi, c'est effectivement le problème que je me pose. Quelle est leur position dans ce monde-là? Est-ce que c'est simplement des épaves entraînées ou est-ce qu'il y a une dernière révolte, comme dans fin de partie, il semble y en avoir une?
Il y a peut-être un espoir, comme dans Godot, bon, les personnages attendaient quelque chose, attendaient Godot, peut-être Dieu. Et bien là, Claude voudrait partir, mais finalement, il partira pas, quoi. Il restera.
Thank you.
Le chant des pieds et des gorges des interprètes de Maybe, Maggie Marin, est juste avant un extrait d'une émission qui s'appelait « Six jeunes autour d'un livre ». On est en 1970 et c'est donc des jeunes gens qui débattent à la radio de leur lecture de Beckett, en l'occurrence de fin de partie. Alors je disais comme ça de manière probablement trop évasive et trop large que Maybe naît, entre autres, de votre lecture des textes de Beckett. Qu'est-ce qui serait correct de dire ?
Du rapprochement peut-être entre la lecture de Beckett et ce que je percevais du monde à 20 ans. Parce que je pense que j'ai rencontré Beckett, l'écriture de Beckett, quand j'avais 20 ans. Et c'était un choc parce que ça me parlait de quelque chose qui était réel pour moi. Voilà. Et ça a pris 10 ans avant que je comprenne un peu mieux ce qui m'arrivait à la lecture de ces textes. C'est aussi que je suis une danseuse. J'ai travaillé avec Maurice Béjart, j'étais une danseuse classique. Donc la question du corps était très très prégnante dans ces cours de danse, dans ces corps magnifiés de la danse. Et c'est vrai que Beckett était tout à fait à l'envers de tout ça. Et donc c'est ce rapport-là, en fait, de contradiction qui répondait probablement à quelque chose qui me semblait trop lisse dans la danse, qui a fait que je me suis intéressée à cet auteur.
Au début de l'archive, l'un des jeunes gens, des jeunes hommes qui s'expriment, il dit « Moi, quand on me parle de Beckett, je pense à un visage d'aigle. » Il dit « Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu une carte postale avec sa photographie. » Vous le rencontrez, Maggie Marin. Il vous offre une très grande liberté. On peut dire que c'est le cadeau qu'il vous fait. Vous gardez quoi de ce visage-là ? Parce que les visages dans Maybe, ils ont une place vraiment très importante.
Bah, ce jeune homme-là, cet étudiant, j'ai à peu près la même... J'ai vu ça. J'ai vu un visage et un regard d'oiseau, d'aigle, oui, de quelque chose de très animal, très beau, le jour où je l'ai rencontré. Voilà, quelque chose de vraiment très, très, très étonnant, parce que c'était pas du tout dans une familiarité ou même il s'agissait pas d'être gentil, convivial, accueillant. C'était juste le rapport était vraiment. Il avait lu mon petit dossier et moi j'avais lu ses textes et c'était là que la chose. On se rencontrait peut-être, en tout cas je l'espère moi. J'espérais que je pouvais toucher un tout petit peu de ce qu'il avait touché avec ses textes, que je trouve. Parce que les étudiants ils disent une chose. Moi, je pense que la question de la survie chez Beckett est très importante, en fait. C'est-à-dire que c'est plus fort que nous. Le monde a beau s'écrouler autour, mais tant qu'on a un peu de vie en soi, on se bat. Et je pense que ça, chez Beckett, c'était très, très vivant.
Quand vous dites à 20 ans, ça faisait écho à quelque chose de profondément réel. Quelques années après, vous diriez que ce quelque chose, c'était quoi ?
Ben, la question de la condition humaine, en fait, le dérisoire de ça, quoi, le court passage sur terre d'un être qui, de la naissance à la mort, semble éternel, en fait, mais en fait, quand on regarde le temps et l'histoire, c'est tout à fait et puis oui, la finitude, en fait, le fait que il n'y a pas vraiment de, quand on n'est pas croyant, en tout cas. On n'espère pas grand-chose d'autre que de qu'on a commencé poussière, on finira poussière. Donc c'était tout ça aussi qui me parlait de ce que je pouvais ressentir du monde et de ma présence au monde.
D'ailleurs, ce sont les premiers mots, et peut-être les seuls, qu'on entend de manière distincte, ce « ça va finir ». Qui ouvre et qui ferme la pièce. Les mots de Beckett, quand je dis il vous a offert une liberté, c'était par exemple de vous défaire du texte, de vous défaire et de pas forcément avoir besoin de les utiliser, les mots ?
Tout à fait, oui. C'est-à-dire que j'avais dans mon petit dossier, on m'avait dit qu'il était très difficile, en fait, et que...
Qui ça, Beckett, lui-même ?
Oui, oui, oui. Que sûrement j'aurais pas les droits, enfin. Et donc j'avais glissé dans mon dossier, j'avais glissé une partie où j'avais repris quelques fragments de fin de partie, un dialogue entre Clove et Ham. Et enfin, lui m'a encouragé vraiment à ne pas me mettre ce genre de choses là-dedans. il m'a encouragé à travailler la voix et les textes de la même façon que je traitais le corps, puisque le corps, j'avais une idée plus précise. S'agissant du texte, je l'avais inclus là-dedans plutôt pour l'amadouer, en fait, pour essayer de rendre la chose respectueuse. Mais lui, il a tout de suite vu que ça servait à rien du tout, tout ça, et que il fallait que j'aille plus loin que ça. Et c'était génial de ressentir ça, oui.
Et dans cette idée précise, il y avait déjà l'argile blanche dont je parlais tout à l'heure, qui recouvre à la fois le visage et le corps des interprètes.
Tout à fait, oui, il y avait tout ça. La pièce, vraiment, quand je l'ai sur papier, après, bien sûr, je l'ai travaillée en studio, mais je pense que le projet, enfin, l'image que j'en avais de chaque partie était très, très proche de ce que c'est devenu, au bout du compte. Beckett m'ayant quand même indiqué les leaders du début et de la fin, qui m'ont mis aussi sur des pistes. J'avais déjà choisi La jeune fille et l'amour parce que j'adore cette... J'avais déjà fait une version de La jeune fille et l'amour plus dansée. Et quand j'ai lu, je crois, C'est tous ceux qui tombent, à un moment donné, ils passent et ils entendent dans une vieille maison La jeune fille et l'amour. Et puis j'ai lu quelque part que c'était une des musiques qu'ils trouvaient le plus douloureuse. Enfin, donc tout ça faisait que je me sentais très, très proche, quoi, de son univers. En plus, à ce moment-là, je crois il faisait des pièces pratiquement chorégraphiques. Il n'y avait pas de texte en Allemagne, Quad et d'autres. Et je crois que ça l'avait... Il me semble que ce qu'il... Il me l'a pas dit, hein. J'interprète son silence, en fait. Mais je pense que le fait que je vienne de la danse, de la chorégraphie et pas du théâtre, c'était ça aussi qui l'intriguait.
C'est une pièce où les êtres se singularisent. Au départ, ils sont comme une sorte de horde. Ils se ressemblent, puis ils vont se dissembler au fur et à mesure. Ce premier moment-là, on entendait tout à l'heure des pas. On pouvait aussi entendre le son que presque fait leur gorge, qui se gonfle comme un oiseau en essayant de dire quelque chose qui n'est pas possible à dire ou qu'ils n'arrivent pas à dire. Comment l'avez-vous constitué, ce premier groupe, Maggie Marin? Comment l'avez-vous imaginé? Comment l'avez-vous écrit, puisque vous racontez, par exemple, dans le documentaire que vous consacrez à votre fils, que ça a été presque une fulgurance? Ils ressemblaient à quoi dans votre tête, ces gens-là?
Avant de les choisir?
Oui, avant de les choisir, lorsque vous les avez imaginés. Avant de choisir les interprètes?
Ben, d'une certaine façon, très, très animal. En fait, je les sentais comme des êtres aux aguets, sur la défensive, prêts à tout pour continuer à vivre. Donc, j'imaginais aussi des physiques très, très différents. Des plutôt gros, des plutôt longs, des plutôt maigres, des beaucoup de caractères différents aussi, des passifs, des autoritaires, des choses comme ça, mais qu'on trouve dans les textes de Beckett, en fait. On voit bien mais le rapport aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est le rapport de dépendance, quoi. On sait pas qui domine l'autre.
Ça bouge d'ailleurs, hein.
C'est tout le temps. Mais n'empêche qu'il y a toujours une question de domination à des moments différents. Donc ça aussi, c'était très important physiquement de pouvoir le travailler avec les gestes.
Et quelle qu'en soit d'ailleurs la raison, hein, cette domination, elle arrive tantôt sur le champ sexuel, elle arrive tantôt sur le champ d'une sorte de travail, elle peut arriver tantôt sur qui aura à manger et pourra poursuivre, qui aura un bagage et pourra poursuivre, qui sera seul ou qui ne le sera pas. Donc la domination, elle est comme omniprésente dans cette pièce-là, dans Maybe.
Tout le temps. Ben oui, c'est cette chose dans laquelle on est tous aussi, une sorte de dépendance de laquelle on ne pourra jamais se défaire, parce que tout seul, on ne fait rien, on n'y arrive pas. Et en même temps, parfois cette haine qu'on a...
À être plusieurs.
À être plusieurs, ou de notre voisin, ou celui qu'on ne peut plus supporter à côté, et pourtant dont on a terriblement besoin, quoi. Et ça a un côté dérisoire et assez drôle, en fait, cette incompatibilité obligatoire... De coexistence, en fait.
Vous dites, je découvre Beckett à 20 ans, c'est un grand choc, et il me faut presque 10 ans pour le digérer. Maybe, c'est ça, c'est une forme de digestion, de traduction de ce grand choc-là, Maggie Marin, c'est du temps qui passe après Beckett, en vous?
Je pense, oui, mais même pas très, très consciemment, en fait. Je pense que j'ai lu la première chose de Stéphane Parti, je crois qu'une amie m'avait offert. J'ignorais qui était Beckett à ce moment-là. Donc j'ai lu ça, ça m'a totalement bouleversée. Et puis j'ai commencé à lire un peu tout ce que je trouvais, mais ça a pris beaucoup de temps. Et même le bouleversement que ça créait en moi, en fait, j'arrivais pas bien à analyser ce que c'était. Ça me mettait dans un drôle d'état, disons, pas très rassurant, on va dire comme ça. Mais petite, en fait, ça a vraiment agi en moi, ça a infusé, on peut dire comme ça, sur beaucoup, beaucoup d'années. Et au moment où j'ai osé me dire que je pouvais faire un travail, parce que pour moi, Beckett, c'était devenu, et puis j'ai connu l'aura qu'il avait aussi dans le milieu du théâtre et dans le milieu de la littérature. Donc c'était comme s'attaquer à, je sais pas, à quelque chose d'énorme. Donc je me trouvais très arrogante, en fait, mais ça a été plus fort que moi, on peut dire ça comme ça, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je l'ai fait, voilà. Je me suis pas trop posé la question, ça s'est passé. J'ai écrit quelque chose et j'ai fait cette pièce. J'ai été chercher les personnes dont j'avais besoin pour travailler et la chose s'est faite.
Et c'est pas n'importe quelle chose, hein. Je le disais tout à l'heure, c'est une pièce importante, probablement à bien des égards, peut-être pour vous, à vous en entendre parler, pour vous-même, pour les interprètes, on en reparlera, pour le public, puisque même si tout n'a pas été simple, voilà, c'est une pièce qui se joue depuis 35 ans. Mais avant qu'on parle justement du processus de transmission, du temps qui passe avec une pièce, avec les interprètes, hier j'ai été frappée par le salut, j'ai été frappée que ces femmes et ces hommes ne quittent pas leur état, l'état de corps et d'être dans lequel la pièce les avait mis et mises, et que pour nous saluer, ils étaient ceux qu'ils avaient été pendant une heure et demie devant nous, si bien qu'on se retrouvait à applaudir qui exactement. Et ce trouble-là, je l'ai trouvé... En les regardant, je me suis dit que ça pouvait pas se terminer autrement. Et je me demande si ce salut-là, en tant que tel, a toujours existé, Maggie Marin.
Oui, oui, dès le départ... le salut a été vraiment chorégraphié, enfin tel quel. Je pensais que ça n'avait pas de sens que tout d'un coup des acteurs et des danseurs se fassent applaudir à partir de la misère humaine, en fait. Donc ces gens qui sont là sur le plateau, c'est nous, ou ça pourrait être nous un jour,
ou
ça sera nous, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'était comme s'il y avait une prolongation entre le plateau et puis... Ensuite, ces gens vont sortir, font leur travail, vont sortir du théâtre, vont aller prendre leur métro, puis vont aller dans la rue ou je ne sais où, en fait. Donc, pour moi, c'était important qu'il n'y ait pas de frontières, que ça ne soit pas juste un travail.
On joue à être ça.
Voilà. On n'a pas le droit, je trouve. Quand on touche à des choses pareilles, c'est trop sensible, je trouve, pour... accueillir cette fragilité, c'est aussi... c'est pas du cinéma, quoi. Je ne sais pas comment dire. Quand on dit du cinéma, j'aime beaucoup le cinéma, c'est pas ce que
non,
je veux dire.
Non, mais comme faire son cinéma.
Voilà, faire son cinéma, voilà. C'est quelque chose qui demande à envisager, en fait, en soi-même aussi, comme danseur, comme acteur, cette possibilité d'être dans l'incapacité de certaines choses, dans la fragilité des choses, dans des anomalies qu'on a tous à des moments, et que la situation sociale dans laquelle on se trouve, familiale, sentimentale, enfin à tout nouveau, peut nous amener à nous retrouver dans des situations de détresse.
D'ailleurs, cette frontière effacée dont vous parlez, Maggie Marin, elle se matérialise justement, paradoxalement, par une sorte de fonte des glaces, c'est-à-dire que la manière dont chacun des interprètes est déposé pour sortir de la scène vers les gradins, le public, eh bien c'est l'un d'entre eux qui prend en charge tous les corps et qui les fait comme fondre, vraiment, en les déposant par terre. Et si bien qu'en effet, il n'y a plus de plateau, d'une certaine manière. Il y a une sorte, pour en revenir à ce que vous disiez, de condition humaine.
Oui, c'est ça. Ceux qui sont assis dans la salle sont aussi ceux qui sont sur le plateau et sont ceux aussi qui ne viendront jamais au théâtre, par exemple. Aussi.
Vous y pensez beaucoup à cela ?
Oh ben, bien sûr. Oui, bien entendu.
On ne refait pas, on ne redanse pas on interprète et on réinterprète. C'est-à-dire que c'est une banalité de le dire, mais les corps bougent énormément. La posture elle-même bouge, est en perpétuelle redéfinition et reconstitution. Les danseurs de 2009 ne dansent pas comme les danseurs de 2005, qui ne dansent pas comme les danseurs pour prendre une période relativement courte et simple, parce que les techniques, les formations et les modes de perception, on ne regarde pas, on ne se projette pas sur un plateau avec les mêmes imaginaires aujourd'hui qu'il n'y a ne serait-ce que 10 ans.
On est obligé de recommencer, je suis désolée, on recommence. On recommence.
Je m'appelle Françoise Leck et je suis née en avril 1963 à Metz en Lorraine. Moi, j'ai fait une maladie quand j'étais jeune. J'ai eu un virus nerveux. Et donc, avant que je danse, j'étais clouée au lit avec des calmants. Je ne pouvais plus bouger du tout. Donc, j'ai eu cette expérience petite où je ne contrôlais pas nerveusement mes mouvements. Et je crois que ça a été déterminant. Et ça l'est encore. Cette expérience-là, physique quand même, entre hyper nerveux à pas pouvoir contrôler, alors que mentalement tout allait bien, et le fait de plus pouvoir bouger du tout, voilà, je crois que c'est vital pour moi, ce travail, ce rapport au corps. Je suis venue juste après la création de Maybe, il l'avait déjà fait, donc c'est des photos de Maybe que j'ai vues, j'avais pas vu le spectacle, et c'était pour la création de Babel Babel, voilà, que je suis rentrée dans la compagnie.
On est obligé de recommencer, je suis désolée, on recommence. On recommence.
Maggie Marin, votre voix qui commence et recommence. On commençait par entendre une archive d'Isabelle Launay au micro d'Emmanuel Laurentin dans La Fabrique de l'Histoire sur France Culture, qui dit « on ne refait jamais ». Et ensuite, dans cet extrait du film « Urgence d'agir », on vous entend au travail dire « il faut reprendre, il faut recommencer ». Alors cette pièce qui se joue depuis 35 ans, vous faites quoi? Vous la recréez, vous la reprenez, vous la recommencez? Quel mot utiliser?
C'est plusieurs choses en fait. On la refait, je pense, pour éprouver ce qui se perche à chaque instant, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, le quotidien, la répétition, ça va très vite pour que les choses se perdent, enfin, le sens de ce qu'on fait, la vitalité de ce qu'on fait se perdent. Et donc, quand on refait, c'est pour mesurer la distance, le travail qui est encore à faire pour atteindre une certaine densité, une intensité vitale qui se transmet aussi à celui qui regarde. Je sais pas, je pense par exemple, c'est un peu comme un travail d'artisan aussi. Un artisan, il refait le geste et le geste doit être le moins, comment dire, avec le moins de parasites possible, le plus simple possible, de façon à obtenir quelque chose d'assez... On est très encombrés tout le temps, constamment. Nous, les artistes en particulier, les acteurs, les danseurs, très encombrés par nous-mêmes. Donc, beaucoup de travail, et ça serait d'épurer, en fait, d'épurer, de dépouiller ce qu'on est en train de faire pour lui redonner... son sens initial, enfin, je dirais, comme quelque chose comme ça.
Et ça veut dire que cette densité-là ou cette vitalité-là, elle a à voir avec ce qui a été fait il y a 35 ans ou en fait, elle a à voir avec ce qui est fait à chaque fois qu'on le recherche, à chaque fois qu'on va le chercher, le maybe, en fait.
Ça doit être du présent. Alors, c'est pas du tout retrouver ce que les autres ont fait il y a 30 ans, ça n'a aucun intérêt. Par contre, ce qui perdure de cette chose-là, c'est un peu comme une histoire, en fait. Ce qui perdure du passé, en fait, vient s'inscrire dans le présent des êtres qui sont là, des contemporains. Et je pense que chaque fois qu'on reprend Maybe ou qu'un nouveau, mais même un ancien ou un jeune danseur reprend cette pièce-là, il faut chaque fois replonger, il faut qu'il trouve pour lui-même le sens de ce qu'il est en train de faire et pas du tout faire une reproduction de ce qu'il a pu voir. Mais c'est très difficile, ça, on est très marqué par les images qu'on nous a fait voir. Par exemple, pour Maybe, Donc chaque fois, il faut que le travail qui se fait soit un travail de, oui, d'archéologie, j'ai envie de dire. Il faut que chacun trouve, à partir de la matière chorégraphique et du rapport aux autres et du groupe, il faut que chacun gratte un peu son sol pour trouver l'endroit où il va se glisser, où ça va se fissurer pour lui et où tout à coup, il va pouvoir être libre là-dedans.
Qu'il l'ait dansé ou jamais dansé, qu'il ou elle l'ait dansé ou jamais dansé.
Absolument, c'est le problème n'est pas le même, mais pour celui qui l'a beaucoup dansé, ben c'est le rabâchage en fait qui risque d'apparaître. Pour celui qui ne l'a jamais dansé, c'est peut-être le bonheur de le faire. En fait, ça peut aussi être totalement la joie d'être dans la pièce peut tout à fait lui faire passer à côté de ce qu'il a à y prendre et à y chercher.
C'est une pièce qui s'est beaucoup jouée, que vous avez parfois, dont vous avez parfois suspendu la production, les représentations, et puis repris. Comment expliquez-vous, même si c'est toujours très difficile, la réception de Maybe, Maggie Marin? Comment expliquez-vous que, par exemple, le simple fait de transmettre cette pièce à la chorégraphe Lia Rodriguez lui a permis de la monter et de renflouer ses caisses et de travailler et de forcément remplir des endroits? Qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça?
C'est difficile pour moi de dire ce qui s'est passé. Je pense que je dois beaucoup à Beckett quand même, il faut dire les choses, oui, et à ce qu'il a pu toucher avec son écriture et qui m'est arrivé directement à moi comme danseuse et chorégraphe. Et donc qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ça touche quelque chose de la condition humaine qui déborde des frontières, qui déborde des âges, des temps. Chez Beckett, on est dans ça, on est dans cette sensation d'éphémère dans laquelle on est tous. Enfin, il aiguise cette sensation de façon incroyable. Et aussi, comment est-ce qu'on meuble le temps qui nous reste à être là, enfin, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup ça. Et c'est très drôle, c'est assez drôle, ça. Dans Les Beaux Jours, comment elle défait son sac et elle recompte, elle regarde à nouveau. Et il y a plein de moments chez Beckett où on a l'impression qu'il trouve des activités pour meubler le temps, quoi. Et on est un peu dans ça aussi, en fait. Et je pense que ça parle aux gens, ça leur parle, pas seulement à moi, mais ça peut. Alors peut-être les gens. Parce qu'il y a des images tout d'un coup et que c'est de la danse, peut-être c'est plus sensible peut-être que de l'écrit et il se retrouve là-dedans. Et je pense que c'est peut-être pour ça que la pièce, parce que ça touche en chacun quelque chose de très intime et de très peureux, j'ai envie de dire. Voilà, ça fait peur un peu. Donc ça nous touche, ça nous donne envie de, moi aussi, ça me donne envie de pleurer des fois, des choses comme ça. Et je pense que
des choses comme ça, comme Maybe, par exemple, les regarder danser, ça peut vous donner envie de pleurer.
Bien sûr, oui, 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 oui. Mais même des situations comme parfois quand c'est très bien joué, je peux être très touchée par un des interprètes par sa façon de se promener là-dedans et parce que j'y vois son humanité à lui et je vois celle des autres du coup. Enfin. C'est ça qui me bouge. Et je pense que pour Lia, par exemple, c'était aussi ça. Lia Rodriguez, c'était aussi. Elle a fait la création en 81, donc elle a vraiment été dans le processus. Et avec ce qu'elle est en train de mener dans la favela à Rio depuis des années, c'était important. C'est compliqué de mener des projets comme cela dans ces pays, encore plus aujourd'hui. Donc c'était important qu'à un moment donné, en fait, cette pièce qui n'a pas été dansée par d'autres danseurs que ceux de ma compagnie puisse aider en fait à former des jeunes danseurs brésiliens et aussi à l'économie de son travail en fait.
Quand le temps passait hier pendant la représentation. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a une sorte de processus de singularisation à partir d'un groupe qui, au départ, efface des signes, en tout cas distinctifs, de chacun. Et puis, plus ça allait, et plus j'avais l'impression de me rapprocher de l'exil, enfin, de me rapprocher. Alors, je ne sais pas si c'est l'air du temps, mais plus ça allait, et plus je voyais ça qui se répétait, qui se précisait, qui tournait devant moi comme une sorte d'ouragan en disant, mais. C'est peut-être à cet endroit-là que la condition humaine est la plus fragilisée et la plus aiguisée, à l'endroit où on part de chez soi. Maggie Marin, est-ce que ça, c'est un ressenti de spectatrice dans le monde 2019 ou est-ce que c'est au cœur de Maybe?
Je pense que c'est au cœur de Maybe et que peut-être aujourd'hui, la situation et ce qu'on vit rend la chose peut-être plus visible. Mais je pense que c'est vraiment au cœur de Maybe. Pourquoi ? Parce que d'abord, mes parents sont des exilés et ma mère m'a raconté beaucoup de fois des choses terribles qu'elle a passées au moment de passer la frontière en France, que la frontière était fermée, il neigeait, il y avait des femmes avec des enfants en bas âge et il y a un camion qui est arrivé avec des victuailles et les gens se sont jetés dessus comme des fous. Parce que c'était la survie. Puis on a aussi des écrits des camps. Enfin, on sait que quand les gens sont menacés dans leur survie parce qu'ils n'ont pas à manger ou parce qu'ils sont maltraités ou parce qu'on les nie, en fait, on sait bien qu'il y a quelque chose qui résiste. Enfin, on veut vivre, en fait. On veut vivre. C'est très peu de gens qui se laissent mourir comme ça. Donc cette capacité-là... Je pense que dans l'exil, ce qui est terrible, c'est que quand c'est je pense que on devrait tous à un moment donné sortir de chez soi, parce que cette d'abord ça fait rencontrer les autres, ça on a besoin, si on n'a pas des familles autour de soi dans la ville où on est né, on est obligé de demander de l'aide. Et cette demande d'aide à des étrangers, à des gens qu'on ne connaît pas, en fait, et qui nous l'accordent, ça crée de l'amitié, ça crée de l'amour, ça crée de l'humanité. Donc, j'ai une sensibilité forte pour tout ce qui est déraciné. Voilà, disons, parce que je pense qu'on comprend mieux la détresse des gens quand soi-même on a été en détresse, quelque chose comme ça.
Alors évidemment rien n'est comparable, mais si on est attentif, est-ce qu'on n'est pas tous exilés? Est-ce qu'on n'est pas tous arrachés à quelque chose, Maggie Marin? Est-ce qu'on ne peut pas tous, sans avoir nécessairement quitté chez soi sous la contrainte, être en contact avec une forme d'exil intérieur?
Oui, je le crois aussi. Je crois par exemple que on peut aussi, mais c'est capacité d'imagination aussi, hein, par exemple, être autre, c'est-à-dire se mettre à la place de certains. Si soi-même, on n'a pas à subir des injustices ou des choses comme ça, arriver par la pensée, en fait, à s'imaginer autre, à se mettre à la place de sans y être vraiment. On peut pas parler à la place des gens qui vivent les choses, mais on peut imaginer ce que ça pourrait être si soi-même on était dans telle et telle situation et d'en comprendre un tout petit peu mieux. Alors voilà, c'est ça que je crois qu'effectivement, dans Maybe, c'est pas tant un exil précis, c'est plutôt cette solitude. En fait, puisque quand on meurt aussi, on est tout seul. Donc c'est cette solitude intrinsèque de la condition humaine au moment de la mort, en fait, qui fait que d'en prendre conscience de cette solitude, ça ouvre pour chercher du contact, en fait, essayer de comprendre les autres.
Et cette empathie-là, si c'est un mot qu'on peut utiliser, a des traductions politiques qui peuvent être extrêmement concrètes et radicales, Maggie Marin, parce que évidemment, tout à l'heure, quand je parlais de l'exilé, mais je disais aussi le fou, le lent, la seule, la vieille, c'est aussi ces êtres-là qu'on regarde. C'est pas uniquement ceux qui sont partis de chez eux dans Maybe.
Ce sont tous les gens qui ne marchent pas à la vitesse où on leur demande de marcher pour différentes raisons, soit parce qu'ils ne veulent pas, soit parce qu'ils ne peuvent pas. Voilà, les différences de chacun, de chaque être, de chaque individu, ceux qui vont vite et ceux qui vont lent. Alors, on est dans un monde où on se retourne assez peu pour voir qui est resté en arrière. Quoi. On avance, on ne sait pas où on va, mais enfin... Et ça laisse, on laisse des gens sur le bas-côté de la route... parce qu'on ne veut pas regarder derrière soi, quoi. Et je pense que même la relation aux personnes âgées, par exemple, aux parents, enfin, ce qu'on est en train de faire, je trouve terrible de ne pas accompagner, en fait, les plus proches, en plus. Ce sont les plus proches, même son propre père, sa mère, sa grand-mère, enfin, quelque chose qui... Et c'est là que la transmission peut se faire aussi, parce qu'on apprend beaucoup de ceux qui ont vécu.
Et de cet état-là, c'est-à-dire qu'on apprend beaucoup aussi de la faiblesse des personnes âgées qui, le temps passant, ont une sorte de diminution de leur corps, mais c'est aussi quelque chose qu'au passage, on peut vivre en soi et éventuellement emporter comme un bagage pour la suite.
Bien sûr, pour comprendre, après, quand ça nous arrive, comment est-ce qu'on va pouvoir tenir quelque chose qui soit plutôt joyeux au lieu de se voiler la face pour ne pas voir qu'on vieillit, pour ne pas voir qu'on va mourir, pour ne pas voir toutes ces choses terribles qui nous attendent.
Never found me yet, Jesus' blood. Never found me yet. This one thing I know, for he loved me so. Jesus' blood never found me yet. Never found me yet. Jesus' blood never found me yet. This one thing I know, for he loved me so. Jesus' blood never found me yet. Never found me yet. Jesus' blood never found me yet. This one thing I know, for he loved me so. Jesus' blood never found me yet. Never found me yet. Jesus' blood never found me yet. This one thing I know, for he loved me so.
Maggie Barrin, vous disiez tout à l'heure qu'il y a une chose que vous a mise dans les mains Samuel Beckett de manière très claire, c'était Schubert. Et ce qu'on entend là, on l'entend longtemps dans Maybe. Ça, c'est pas du tout Beckett.
Qu'il a passé. Ah non, pas du tout. Non, ça, c'est un ami qui m'a amené ce morceau pendant que j'étais en train de travailler sur Maybe. Et c'était magnifique, en fait. C'était juste ce qu'il fallait à ce moment-là, quoi. Donc cet être qui chante, ce clochard, en fait, qui chante cette espèce de prière, et un orchestre symphonique
qui entre progressivement
et qui le magnifie d'une façon incroyable. Alors l'antagonisme entre les deux choses, je trouve magnifique, vraiment.
Never found me yet. Jesus' blood never found.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Maggie Marin.
Jesus' blood never found me yet. Never found. Jesus' blood never found me.
Gavin Bryars, qui en effet souligne la voix de cet homme qu'on imagine un peu errant et chantant ce chant, de chant religieux. Jésus m'a pas encore trouvé, mais bon, je suis certain qu'il m'aime et qu'il va arriver un jour, Maggie Marin. C'est aussi une trouvaille de votre ami, parce que tout est là, la répétition, le temps qui passe, une sorte de faiblesse qui se transmute en force d'une certaine manière. Quelle place a la musique, qui est quasiment omniprésente dans cette pièce, Maybe, pour vous?
C'est la place de la musique dans Maybe, c'est pas le cas de toutes les pièces que je fais. Parfois c'est très important. Mais la musique dans cette pièce était moteur, en fait. Je n'avais pas encore fait le moindre mouvement que j'avais. Je savais déjà que j'avais le carnaval de Binche, les leaders de Schubert, la jeune fille et l'amour, la tragique de Schubert et le Gavin Bryars. En fait, c'est la dernière chose qui est arrivée, mais c'était en plein travail. Donc oui, la musique a vraiment été moteur elle a pu l'être rarement, en fait. En tout cas, à l'époque où je faisais des pièces, où la musique, je prenais des musiques préexistantes, en fait, sur de compositeurs. Après, j'ai travaillé avec des musiciens compositeurs vivants, et donc la musique se faisait en même temps avec Denis Mariotte, notamment. La musique se faisait en même temps que le travail chorégraphique ou de mise en scène. Mais là, vraiment, la musique était vraiment... comme la base de tout. Enfin, je voyais bien la chose parce que le déroulé musical allait vers ça, en fait.
Et aussi, ce faisant, il y a quelque chose de notre imaginaire collectif, puisqu'on parlait tout à l'heure de la condition humaine, mais avec ces musiques donc, qui sont préexistantes, d'une certaine manière, Maggie Marin, vous embarquez aussi tout ce qui est avant nous, et dont on a conscience ou pas, mais qui est avant nous, avec cette musique qui ne vient pas de s'écrire, d'une certaine manière.
Oui, bah parce qu'elle porte cette musique, elle porte, elles ont aussi bah la musique de Gavin Bryars, elle est quand même, elle était contemporaine puisque je pense que je sais pas à quel moment il a dû la composer, mais enfin pas longtemps avant. Hein. Donc c'était quand même une musique du moment, disons. Pour moi, c'est un vrai hommage qu'il a rendu à cette voix fragile de cet homme qui chante. C'est magnifique, je trouve. Mais par rapport à Schubert ou le Carnaval de Binge, il y a aussi ce côté archaïque dans le Carnaval de Binge que je voulais absolument. Il y a quelque chose de ça aussi dans les figures de Beckett et dans mes billes. Il y avait cette chose que je voulais très primaire, en fait. Ce sont des gens qui peuvent être très raffinés, mais qui peuvent être aussi très grossiers, quoi.
Fini. C'est fini. Un seul corps, toujours le même, bras, tête, genoux, dos, sexe, cœur, visage, toujours le même paysage. Nous ne formons qu'un seul corps, toujours le même, bras, tête, genoux, dos, sexe, cœur,
il n'y a qu'un seul corps,
visage,
toujours le même,
visage,
bras, tête, genoux,
toujours le même paysage. Toujours le même cri,
visage,
toujours le même toujours paysage,
le même, visage. Le même cri,
visage,
le même cri,
cri, le même cri.
Un extrait sonore de L'urgence d'agir, le film de David Mambouche. Alors, c'est à partir de sa relation particulière avec la pièce Maybe qu'il s'en va poser des questions à votre parcours de femme, de chorégraphe, de danseuse, de Maggie Marin et de mère, inévitablement. Toutes les archives qu'il déplie pour nous à partir de Maybe qui vont vous montrer dans des actions aussi politiques d'installation, dans certains endroits avec votre compagnie, dans des moments de transmission, dans des moments de recherche, dans les moments difficiles par rapport à la création. Comment avez-vous accueilli cette... alors je ne sais pas si c'était une demande, ou en tout cas ce moment où le film, ce film-là de votre fils allait se tourner?
Bah, déjà, je pense que l'histoire de cette pièce, qui a duré très longtemps finalement, qu'on ne s'attendait pas du tout à cette longévité...
Et dure encore, en fait.
Voilà. Donc déjà ça, mais ça fait déjà quelques années que ça, c'était étonnant. Le fait que ça ait pu aussi se faire parce que je travaille avec des camarades, en fait, danseurs qui sont restés très longtemps dans la compagnie et qui m'ont donc permis de travailler en permanence sur mon propre travail et qui ont permis que cette pièce continue de vivre. Peut-être que s'il n'avait pas été là, ça aurait été compliqué de la réapprendre chaque fois à beaucoup de gens, même si 90 danseurs l'ont dansé. Mais c'est vraiment une transmission orale, j'allais dire, des anciens danseurs vers les plus jeunes. Et c'est comme ça, de génération en génération. Donc, ce compagnonnage avec ces danseurs, le fait que la pièce ait été soit tellement sympathique qu'elle ait continué à vivre de cette façon-là. Ça m'a posé, je me disais, il faudrait quand même qu'on arrive à le cinéma, à cette force de faire une trace, enfin de laisser une trace dans le temps. Et il se trouve que David est né, effectivement, en fait, il a juste l'âge de la pièce. C'est-à-dire que j'étais enceinte de lui quand j'ai commencé la pièce. Et jusqu'à aujourd'hui, il a donc 36 ans. Voilà. Donc il a connu, en fait, comme enfant, comme adolescent. Et puis, il a dansé la pièce. Et puis, il est devenu acteur lui-même. Donc, on a travaillé ensemble. On a pu échanger artistiquement sur plein de choses. Et à un moment donné, il a fait un film aussi d'une de mes pièces en tant que cinéaste, en tant que réalisateur. Et là, c'était évident, quoi, que si je faisais un film de ça, ça devait se faire avec lui parce qu'il y avait justement une forte complicité entre les choses que j'avais envie de dire à travers ce film, qui était, oui, laisser la trace de cette pièce avec cette compagnie, mais aussi dire... Parce que pendant ces 35 ans, il y a eu des disparitions, il y a eu des naissances. Mes enfants, les enfants des danseurs.
Vos parents, qui ont une place importante dans le film.
Donc beaucoup de gens ont perdu des êtres chers, des nouveau-nés sont arrivés. Donc j'avais aussi envie de dire que la création se matine complètement en fait du quotidien des gens, de leurs peines, de leurs souffrances, de leurs joies, des moments hyper forts qu'on a pu vivre ensemble, d'autres moments où c'était plus compliqué, plus triste, et que tout ça en fait a roulé. Le travail a toujours été comme quelque chose qui nous a fait survivre, en fait, je dis, enfin, en tout cas, qui nous a vraiment porter dans nos vies, quoi, avec les peines et les joies. Et ça, c'était important aussi pour moi de le rendre visible. Et ça pouvait pas être quelqu'un d'autre qui aurait eu une telle proximité avec chaque personne qui est dans le film. En fait, David les a connus de la naissance. Il a été gardé par certains des danseurs de la compagnie. Il a gardé les enfants de certains. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui est très, très proche de ce qu'on a vécu, quoi. Et puis, en même temps, il n'en a pas fait partie. Donc, ça lui a permis, devenant adulte, il a fait son travail, son travail d'artiste, d'acteur. Ça lui a permis d'avoir une sorte de distance par rapport à ce qu'on a pu faire, nous, qui lui ont permis aussi de faire ce film, je crois. S'il avait été trop dedans, le nez dedans, ça aurait été très compliqué.
Si bien, Maggie Marin, que lorsqu'au montage, une scène filmée d'un gâteau d'anniversaire soufflé, je pense, par votre mère, et tout de suite après un extrait de la pièce Maybe, ou autour d'un corps âgé sur un fauteuil roulant et un autre corps âgé, on souffle aussi un gâteau d'anniversaire. Quand il y a cet effet de montage dans le film L'urgence d'agir, est-ce que c'est son regard de David Mambouche? Est-ce que c'est une évidence parce que vous lui avez dit que les choses transpiraient comme ça de la création à la vie? Est-ce que vous le découvrez vous-même tous les deux parce que le film le met à jour? Comment ça se passe?
Je pense qu'il, on n'a pas eu besoin de se le dire. Je pense que David, parce qu'il a vu les choses aussi, d'où est-ce qu'elles venaient. Peut-être pas au moment où elles sont arrivées parce qu'il était trop jeune, mais ensuite il a fait sa propre exploration des choses, et effectivement il y a des images qui étaient éparses dans sa mémoire, et il a rapproché, il a fait des liens, quoi, il les a fait dialoguer, ces images qu'il avait, et donc il a dans ce sens, il a découvert, en fait. Il nous a fait découvrir, même personnellement à moi, par les questions qu'il me pose, par exemple, parce qu'il me pose des questions très, parfois un peu difficiles à répondre.
En tout cas, très directes.
Voilà. Ben oui, mais parce que il n'a pas besoin de prendre tellement de gants, en fait. On se parle normalement et on va au fond des choses. Et donc, dans ces questions, en fait, il a poussé aussi à ce que je dise beaucoup de ce qui fait le fond du travail artistique aussi, qui est quand même un contenu de vie.
Exactement, mais c'est ce que dit ce film-là de bout en bout, c'est que, en tout cas, pour vous, Maggie Marin, et pour les personnes qui vous entourent, la vie, la création et l'engagement qui réunit les deux, tout ça fait que c'est indissociable. Et ça vaut pour Ramdam, le lieu que vous avez créé, qui est un lieu de travail, un lieu d'accueil, mais ça vaut aussi pour, j'ai l'impression, presque le noyau de chaque pièce. C'est-à-dire que tout va ensemble.
Tout à fait.
Agir politiquement sur le monde, traduire ce que nous vivons sensiblement, et faire des spectacles.
Absolument. C'est aussi que, vous voyez, dans ma génération, en fait, les femmes... une danseuse pouvait pas avoir des enfants tellement, enfin c'était compliqué parce qu'elle grossissait.
Ça déforme le corps.
Donc voilà, donc cette espèce de dichotomie qu'il y avait entre le fait d'être une femme artiste ou une mère, une femme, enfin c'était, et peut-être que tout ça a agi en fait en moi. Et j'ai voulu aussi défendre toutes nos vies, quoi. Enfin, tout ce qu'on a envie de vivre, tous nos désirs. Oui, j'avais envie d'être danseuse. Oui, j'avais envie d'être chorégraphe. Oui, j'avais envie d'être mère. Oui, j'avais envie d'être une amante. Enfin, voilà. Et je trouve que c'est important de défendre ce point de vue qui n'est pas quelque chose. L'art n'est pas une chose séparée des êtres qui le font.
Ça apparaît très fort.
Tant mieux.
Ce qui apparaît aussi, c'est que c'est pas facile. Et je commençais l'émission en disant c'est pas facile d'être ensemble et on continue d'essayer, mais dans l'urgence d'agir, il apparaît aussi que faut parfois avoir le cœur bien accroché pour mener tout ça de front.
Tout à fait, oui, il faut. C'est aussi que qu'est-ce qu'on veut, quoi. Enfin, moi, je veux bien vivre intensément le peu de temps qu'il y a sur Terre. Je veux bien le vivre paisiblement aussi, mais aussi vraiment intensément, quoi, et pas juste penser qu'on est éternel ou que on est propriétaire des choses qu'on a. Non, essayer vraiment que chaque fois, c'est un peu comme ce qu'on disait au début, l'histoire de refaire ou de la répétition. En fait, on répète quand même, chaque journée se répète, chaque année, une année de plus, une année de plus. Mais comment est-ce qu'on peut faire que ces journées qui se répètent ou ces années qui se répètent, malgré toutes les différences qu'il peut y avoir entre un jour, un autre, une année, une autre, le temps qui passe, que ça reste quelque chose qui soit toujours très vivant, enfin très porteur en fait, porteur d'une forme de joie en fait, j'ai envie de dire ça quoi.
Et il faut avoir quoi, des sortes de réserves de ça quand, par exemple, des élus politiques moins inspirés que d'autres mettent des bâtons dans les roues pour que des actions artistiques et culturelles ou des actions humaines se tiennent, quand au Festival d'Avignon, selon le récit d'Antoine Manologlou, la réception d'un spectacle, qu'est-ce que ça fait à moi, est difficile à vivre et une profonde remise en question. Il faut avoir la réserve de cette joie dont vous parlez, Maggie Marin, pour continuer?
Je pense oui. Je pense que... mais ça, on le reçoit assez tôt, quand on a la chance de le recevoir, je pense.
Vraiment. Cette joie-là?
Je pense qu'on a une forte responsabilité par rapport à nos propres enfants, mais par rapport aux enfants en général, de leur donner cette capacité de se sentir capable, en fait, capable de surmonter les choses, surmonter la tristesse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut se transmettre vraiment, quoi. Je pense à ma mère, là, tout à coup, puisque ma mère a toujours été, elle est décédée maintenant, mais elle a toujours donné beaucoup d'amour, en fait, beaucoup d'amour et beaucoup de confiance dans ce que je pouvais accomplir. Et je pense que nous, on a une responsabilité par rapport aux enfants qu'on côtoie, aux jeunes danseurs, de leur donner cet élan, quoi, de croire et de se sentir capable de surmonter les choses et pas de se laisser subir ou de se laisser imposer des choses de l'extérieur. Et donc, quand on passe des moments comme ça en politique où tout à coup, on a moins de... Je veux dire, il y a des politiques qui ne soutiennent pas suffisamment la création ou la danse.
Votre ancien directeur de compagnie, mais administrateur de compagnie dit, bon, je voudrais pas dire qu'ils sont moins intéressés ou moins intéressants. Enfin, si, je vais le dire, ils sont moins intéressés et moins intéressants.
Ben, c'est sûr, la culture aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, hein. Malheureusement, enfin, c'est vraiment... Je pense que il faudrait vraiment reposer ces questions de l'art à l'école qu'on a posé à des moments puis qu'on a laissé tomber parce qu'on est quand même dans une histoire de rentabilité incroyable.
Qu'on a posé d'ailleurs de manière très frontale précisément au moment de la création de Maybe. C'est vraiment au tout début des années 80 qu'on s'est posé la question de l'art à l'école et puis depuis ça s'est un peu filoché.
Oui.
L'urgence d'agir, qui est le titre de ce film-là, Maggie Marin, ça se transmet alors ? On peut transmettre l'urgence d'agir ?
Je pense, oui, 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 je pense. On me l'a transmis, en fait. Je pense que si je ne l'ai pas inventé, cette façon de voir les choses, je l'aimais pas seulement par mes parents qui ont refusé la dictature de Franco et qui ont survécu comme ils pouvaient très modestement à beaucoup de, mais qui ont toujours gardé quand même une intelligence de vie, une relation d'amitié aussi avec les autres. Donc je pense que c'est important, en fait, je parlais des parents, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui se travaille ensemble, ça. C'est le collectif, en fait, c'est le débat, c'est la discussion entre nous. À Ramdam, par exemple, je pense que c'est un lieu où on peut échanger sur ces questions et de pas être totalement isolé à vouloir gagner la partie, quoi.
Fin de partie. L'urgence d'agir, c'est le titre du film de David Mambouche. Ce sera en salle le 6 mars. C'est le film qui est consacré, donc, enfin, qui part de Maybe, mais à tout votre travail, Maggie Marin. On peut voir Maybe au Théâtre de la Ville, Espace Cardin, jusqu'au 12 mars. Et ensuite, on mettra les dates de la tournée. Ça passe par Angers, Biennale de danse du Val-de-Marne, Ville juive Saint-Maur-des-Fossés. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci, merci.
Ce soir au son, c'était Delphine Baudet à la réalisation, Massimo Bellini. Un grand merci à lui. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr ou vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. Un grand merci aussi à Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor et Lou Quevauvillier qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Dans un instant, le journal sur France Culture. Très belle soirée. Lundi, Romain Debec de Lièvre au micro de Par les temps qui courent.
Barfuß auf dem Eise wankt er hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Es geht.